Chapitre 4 Battement d'ailes nocturnes. Hélas, Amandine dut s'éclipser une fois de plus pour suivre un nouveau cours de maniement d'éventail et de révérence. Au moment où nous nous séparions, elle m'a conseillé, elle aussi, de ne pas trop me faire remarquer. Avec les chats qui s'obstinaient à me prendre en filature, je ne me sentais pas en sécurité. Toutes les statuettes de porcelaine semblaient hurler « Va-t'en, va-t'en avant qu'il ne t'arrive malheur !» J'avais faim, abominablement faim, mais je n'osais descendre aux cuisines ou me lancer à la poursuite d'un valet pour lui réclamer de quoi manger. J'ai fini par rencontrer Flore au fond d'un couloir, le nez collé à la fenêtre. Elle scrutait la forêt avec une expression désespérée. Cette fois, c'est pour ce soir, a-t-elle haleté. Les arbres m'appellent. Tu ne les entends pas? Ils répètent mon nom depuis ce matin. Ça me rend folle. Tu veux que je t'enchaîne? Ai-je proposé. Non, ça ne servirait à rien. Je ne peux plus retarder mon départ. Tu t'occuperas d'Amandine. Tu me le jures? Elle n'a pas réellement conscience du danger qu'elle court. Surveille Zafar. Je suis persuadée qu'il a trouvé le moyen de s'emparer de la couronne. Il est rusé. Plusieurs sorciers travaillent sous ses ordres. Il va commencer par se débarrasser du roi. Ensuite viendra le tour d'Amandine. Sois vigilante. Adieu. Où vas-tu? Rejoindre les miens. Ils m'attendent depuis trop longtemps. Elle s'est dirigée vers l'escalier sans se retourner. De la fenêtre, j'ai pu la voir traverser le parc. Arrivée au pied de la grille, elle en a escaladé les barreaux en déchirant sa belle robe. Puis, s'est laissée glisser de l'autre côté, dans la forêt. Je l'ai vue disparaître dans l'ombre des frondaisons et ma gorge s'est serrée. Je savais que nous ne la reverrions plus, pas sous la forme que nous lui connaissions, du moins. Comme j'y voyais mal, j'ai ouvert la porte-fenêtre et je me suis avancée sur la terrasse, au ras de la balustrade. Je me trouvais au quatrième étage du palais, et d'où je me tenais, je bénéficiais d'une vue splendide sur le parc et les bois. Alors que je me penchais pour essayer de repérer Flore dans la pénombre des grands arbres, deux mains surgies de nulle part m'ont empoigné les chevilles. J'ai réalisé trop tard qu'un passe-muraille venait d'émerger du sol, juste derrière moi. Pas étonnant que je ne l'ai pas vu s'approcher. Il avait une force étonnante, et sans me laisser le temps de pousser un cri, il m'a balancé dans le vide par-dessus la balustrade de marbre blanc. J'étais au quatrième étage, et j'ai commencé par tomber comme une pierre. Normalement, j'aurais dû m'écraser sur le dallage de la cour d'honneur. Par chance, j'avais conservé la mallette à la main. Comme vous le savez, elle est capable de voler dans les airs, cela fait partie de ses mystérieux pouvoirs. Comprenant que j'étais en grand danger de m'écrabouiller, elle s'est brusquement élancée vers les nuages, m'entraînant à sa suite. J'ai eu le réflexe de me cramponner à la poignée, ce qui m'a sauvé la vie. Au lieu de dégringoler, je suis montée plus haut que la plus haute tour du palais. Le passe-muraille n'a pas dû en croire ses yeux. Puis, m'estimant en sécurité, la valise a perdu progressivement de l'altitude et s'est posée sur une pelouse, à l'écart près d'une fontaine où des tritons de bronze crachaient des jets d'eau. « Merci, ai-je hoqueté. Tu m'as sauvé la vie. »« Tu as du sang sur le front, » a grommelé le bagage. « Tu t'es écorché sur la rampe en basculant. » Je me suis essuyé d'un revers de manche, mais ça m'a rappelé l'image apparue sur l'éventail horoscope d'Amandine. La prédiction avait bien failli se réaliser. J'en ai profité pour faire le point avec la valise. Elle m'a confirmé que tout ce que m'avait dit Amandine au sujet de la couronne maudite était vrai. Il faut que le sang de la dynastie des Anagatos coule dans les veines du prétendant au trône pour qu'il puisse s'en coiffer. Sinon, sa cervelle se mettra à bouillir, ses cheveux prendront feu et les yeux lui jailliront des orbites. Après un tel traitement, il devient difficile de régner dans de bonnes conditions. Le cerveau a subi de tels dommages qu'on est à peu près aussi intelligent qu'un chou-fleur cuit à point. « Hum hum » ai-je grommelé. « Un coup d'état semble donc impossible. »« À ta place, je ne m'y fierai pas », a conclu la mallette avant de se rendormir. Ce Zafar a plus d'un tour dans son sac. Je me suis promenée dans le parc jusqu'au soir. J'avais peur de regagner le palais. Je savais que les bonhommes m'y attendaient et qu'ils ne me feraient pas de cadeaux. Par bonheur, j'ai dîné chez un petit verger au fond du jardin. J'ai pu y cueillir des fruits succulents qui ont calmé ma faim. Comme la nuit tombait, j'ai décidé de rentrer. Il y avait trop de chats noirs dans les buissons à mon goût. J'ai pensé que je serais davantage en sécurité en compagnie de la princesse. Les bonhommes n'oseraient rien tenter en sa présence. Du moins, je l'espérais. J'ai retrouvé Amandine au moment où elle sortait du cours de révérence. La prof m'a jeté un regard noir. J'en ai déduit qu'elle travaillait elle aussi pour le premier ministre. Se tournant vers la princesse, elle a déclaré de manière à ce que je l'entende « Votre Altesse ne devrait pas inviter de telles croquantes au palais. Le grand maître de l'étiquette n'appréciera guère cette initiative. » Amandine a laissé fuser son petit rire élégant avant d'agiter son avantail d'un geste plein de grâce. « Allons, comtesse, a-t-elle soupiré, ce n'est qu'une écolière en visite. Elle repartira éblouie et ce petit séjour embellira son existence jusqu'à l'heure de sa mort. Les gens du peuple sont des enfants. Un rien les émerveille. Il est si facile de leur faire plaisir. Pourquoi s'en priverait-on ? C'est ainsi qu'on évite les révolutions. L'ignorez-vous ? J'ai compris qu'il s'agissait d'une ruse, mais ça m'a tout de même agacée. Une fois la prof et les élèves dispersés, Amandine s'est approchée de moi, l'air gênée. « Ne m'en veux pas, » a-t-elle murmuré. « La comtesse est une créature du premier ministre. Et n'y a pas pire moucharde. »« Flore est partie, » ai-je grogné. « Elle ne reviendra pas. Je n'ai rien pu faire pour la retenir. C'était sa volonté. » Amandine a déployé son éventail devant son visage pour dissimuler ses larmes. Elle était très pâle et j'ai senti qu'elle souffrait de la disparition de sa demoiselle de compagnie. Moi, à sa place, j'aurais poussé des beuglements en m'arrachant les cheveux. Ça aurait eu moins de classe. Nous avons gagné ses appartements. Avant de sonner ses servantes, elle a tiré d'un repli de sa robe deux petits pains mollets dérobés lors du déjeuner. « Resterons-nous » a-t-elle décidé. « Je te rappelle qu'il ne faut pas toucher aux plats qu'on nous apportera dans un moment. Ils sont drogués. Les cuisiniers les ont assaisonnés au moyen d'une poudre de vérité qui nous forcera à parler pendant notre sommeil. » « Je sais, ai-je grommelé en engloutissant mon petit pain avec voracité. « Vous n'avez que ça ? Hélas, les serviteurs m'épient. Même cela, j'ai eu du mal à le voler. » Je lui ai raconté la tentative d'assassinat dont j'avais été victime, mais elle m'écoutait d'une oreille distraite, en pensant à Flore. J'ai jugé inutile d'insister. Elle a sonné les domestiques pour qu'on apporte le repas. Les servantes se sont précipitées, poussant des tables roulantes, surchargées de victuailles atrocement appétissantes. J'en avais l'eau à la bouche. Mon estomac s'est mis à produire des bruits disgracieux d'évier engorgés. Ah, ces parfums ! Les servantes congédiées, Amandine m'a soufflé en désignant les mets offerts à notre gourmandise. Ils font exprès, pour stimuler notre appétit. Ils espèrent que nous céderons à la tentation. Aide-moi, nous allons jeter cette nourriture sur la terrasse. Les chats du parc n'en feront qu'une bouchée, et s'ils miaulent pendant leur sommeil, personne n'y verra malice. J'ai obéi, la mort dans l'âme. Plus tard, les serviteurs sont revenus débarrassés, puis a sonné l'heure de la cérémonie du coucher. Je me suis retirée dans le cabinet rouge, pendant que les chambrières préparaient Amandine pour la nuit. Comme la veille, nous nous sommes couchés. Nous avons faim de nous endormir, puis de balbutier des confidences parfaitement anodines que les passe-murailles ont écoutées d'une oreille attentive avant de s'en aller faire leur rapport. J'ai fini par m'assoupir réellement sur le canapé de velours rouge. Il devait être 2 heures du matin quand un bruit bizarre m'a réveillée. On aurait dit un battement d'ailes, comme si un oiseau se cognait à la fenêtre. Je me suis levée sans faire de bruit et j'ai entrebâillé la porte du boudoir. À la lueur de la lune, j'ai vu un bonhomme sortir du mur. C'était un petit être, courtaud et gras, au crâne chauve, vêtu d'une espèce de col en noir, comme un danseur ou un ninja. Se déplaçant sur la pointe des pieds, il s'est approché de la fenêtre qu'il a ouverte. Amandine dormait à poings fermés, ne se rendant compte de rien. Alors quelque chose est entré dans la chambre. Un oiseau noir qui voletait bizarrement et qui s'est mis à planer au-dessus du lit de la princesse. J'ai eu un mauvais pressentiment. Soudain, la bestiole a poussé un petit cri aigu et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une chauve-souris. Pourquoi le passe-muraille l'avait-il fait entrer dans la chambre? Quel était le but de cette curieuse manœuvre? Il fallait faire quelque chose, et vite, car la chauve-souris décrivait des cercles de plus en plus étroits au-dessus du lit, comme si elle allait bientôt se laisser tomber sur Amandine. Sans plus réfléchir, j'ai expédié un coup de pied dans la valise et j'ai bâillé très fort, comme si je me réveillais. Aussitôt, la chauve-souris a filé par la fenêtre et le bonhomme s'est enfoncé dans le mur. Cette petite aventure m'a laissé une mauvaise impression. J'ai fermé la fenêtre et je me suis installée dans un fauteuil au pied du lit, surveillant la princesse du coin de l'œil. J'ai réussi à ne pas trop dormir cette nuit-là. Ni le passe-muraille ni la chauve-souris ne sont revenus. Quand le jour s'est levé, j'ai réveillé Amandine pour lui conter les événements de la nuit. Elle a haussé les épaules. « Tu as sûrement rêvé, » a-t-elle bâillé. « Ça n'a aucun sens. Habille-toi plutôt. Je veux aller faire mes adieux à Flore, dans la forêt. » Elle semblait triste, maussade, peu disposée à m'écouter. Je n'ai pas insisté.